Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Avertissement, cet épisode évoque des violences intrafamiliales. Bonjour à tous et bienvenue dans Marie sans filtre. Je m'appelle Marie-Albert, j'ai 28 ans et j'habite à Cherbourg en France. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme cisgenre, célibataire, pansexuelle, française, blanche, jeune, mince et athée. Marie sans filtre est mon podcast intime, féministe et politique. Ici, je raconte des expériences personnelles afin de déconstruire le patriarcat. Je sors un épisode une fois par mois. Dans ce 51e épisode, je vous raconte les violences intrafamiliales que je subis depuis ma naissance. Mes parents sont violents, violentes, et j'essaie de m'en éloigner, mais ce n'est pas facile. Je sais que je ne suis pas seule, alors j'enregistre cet épisode malgré ma peur que mes parents se vengent. Non, nous n'avons pas à supporter leur violence, même si elles nous ont élevés. Cet épisode s'appelle « J'arrête de parler à ma mère ». Parce que c'est ce que je devrais faire, arrêter de parler à ma mère, et à mon père aussi d'ailleurs. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais avant de vous raconter ma vie, je cite, comme d'habitude, un commentaire reçu au sujet de mon podcast Marie sans filtre. Aujourd'hui, c'est Zoé, qui a écrit le 8 mai 2021. Ce podcast est bien construit et agréable à écouter. Cependant, il s'adresse à un public averti. Les trigger warnings sont là, ceci dit. Bonne continuation à vous. Merci pour ce commentaire et ces encouragements, Zoé. En effet, il en faut des trigger warnings, des avertissements que vous entendez en début d'épisode, pour écouter Marie sans filtre, car chaque épisode, ou presque, parle de violence. Alors si vous, chère auditrice, vous continuez de m'écouter année après année, respect, respect. J'en viens maintenant au sujet du jour. J'arrête de parler à ma mère. D'abord, je vous explique le problème avec ma mère. Ma mère utilise la violence psychologique en permanence, depuis que je la connais, ma naissance quoi. Elle m'a déjà frappée, quelques gifles, et insultée, connasse ou salope, je me souviens plus exactement, c'était au printemps 2022 par exemple. Mais c'est plutôt rare, les violences physiques et verbales. Non, ce qu'elle préfère, c'est me critiquer et me dévaloriser. Bon, vous allez dire, c'est pas que des violences psychologiques, c'est aussi des violences verbales, du coup. Ma mère remet en question tous mes choix de vie. Quoi que je fasse, cela ne lui plaît jamais. Elle ne m'encourage ou ne me soutient jamais. Et elle me pose toujours les mêmes questions. Pourquoi tu veux pas d'homme dans ta vie? Pourquoi tu veux pas de CDI? Est-ce que tu voudrais pas prendre un vrai travail? Tu veux pas être en couple? Ça te manque pas d'être en couple? T'aimerais pas avoir quelqu'un sur qui compter? Et nanani et nanana, à chaque fois que je la vois. Ma mère est absolument sourde à l'autodéfense verbale. Je vous ai déjà expliqué que j'avais été formée à l'autodéfense féministe, notamment dans l'épisode de Marie sans filtre qui s'appelle « Je pratique l'autodéfense féministe » et il y a une technique verbale qui s'appelle la technique des trois phrases qui permet de se défendre verbalement. La première phrase, c'est « j'explique ce qui vient de se passer, tu m'as encore posé les mêmes questions, maman ». La deuxième phrase, c'est « ce que je ressens, ça me fait me sentir triste et pas respectée ». Et la troisième phrase, c'est « ce que je souhaite, donc maman, je veux que tu arrêtes de me poser toujours les mêmes questions ». En fait, la technique des trois phrases et plus largement l'autodéfense verbale, ça ne marche absolument pas avec ma mère. Elle ne me présente jamais d'excuses, elle n'est jamais d'accord avec ce que je dis, elle ne répond jamais à mes demandes, elle ne se sent jamais coupable, elle ne se remet absolument jamais en question. Au contraire, ma mère inverse la culpabilité. C'est ainsi que j'en viens à sa stratégie qui a un nom, ça s'appelle la stratégie de l'agresseur, ou plutôt la stratégie de l'agresseuse dans son cas. J'ai pris connaissance de cette stratégie en détail pendant une formation au sujet des violences sexuelles menée par le collectif féministe contre le viol, le CFCV, l'année dernière. Quand j'ai découvert la stratégie de l'agresseur, j'ai pas pensé directement aux hommes agresseurs de ma vie, j'ai pensé à ma mère. Pourtant, il a fallu attendre l'épisode 51 de Marie sans filtre pour que je vous parle de ma mère, alors que dans tous les épisodes précédents, je parlais d'homme agresseur presque. Qu'est-ce que c'est que la stratégie de l'agresseuse, de l'agresseur ? Alors, il y a 5 étapes. D'abord, la première étape, ces 5 étapes m'ont fait penser à divers degrés à ma mère. La première étape, c'est que l'agresseur va isoler la victime. Pour le coup, souvent les agresseurs vont, par exemple, si c'est dans le cas de violence conjugale, empêcher la victime de voir ses amis, de passer du temps avec sa famille, d'avoir des relais, de sortir, de travailler, ça peut aller jusque là. Et c'est une première étape d'isoler la victime, même un petit peu. Bon, pour le coup, ma mère ne le fait pas. Ben, en même temps, j'ai 28 ans et j'habite pas avec elle, donc ça. Enfin, je sais pas. Pour le coup, elle le fait pas. Mais les 4 autres étapes, elle le fait. Donc, première étape, isoler la victime. Deuxième étape, dévaloriser la victime. C'est ce que je vous ai dit. Ma mère, en permanence, fait ça avec moi. Elle critique tous mes choix. Elle ne me félicite jamais. Elle ne m'encourage jamais. C'est toujours négatif, quoi que je fasse. Quand je vivais avec mes parents l'année dernière, elle voulait que je parte. Et quand je lui ai dit que je partais à Cherbourg, elle m'a dit que c'était une mauvaise idée et que je pouvais rester à la maison si je voulais. Donc en fait, c'est la preuve, vous voyez, que même, enfin, en fait, quoi que je fasse, vraiment, ça sera toujours critiquable pour elle. Donc elle me dévalorise. Et la troisième étape, c'est qu'elle inverse la culpabilité. Donc ça, c'est sa spécialité. Quand je lui dis qu'elle est violente, que c'est pas normal qu'elle me dise ça, que je veux qu'elle arrête, elle me dit que c'est dans ma tête, que je suis trop sensible, que je suis trop féministe, qu'elle a subi bien pire, que ses parents ils étaient pires, que chez les autres c'est bien pire, et que voilà, c'est dans ma tête. La quatrième étape, c'est terroriser la victime. Donc ça, ma mère, elle me menace, par exemple, dès que j'emploie le mot violence pour parler de son comportement avec moi. Et d'ailleurs, j'ai très peur de publier cet épisode aujourd'hui parce que bien que je ne donne pas le nom de ma mère, j'ai peur qu'elle l'écoute et qu'elle me démonte ensuite, qu'elle me demande de... qu'elle me fasse la gueule, qu'elle m'engueule, qu'elle me demande de supprimer l'épisode, etc. Enfin bref, elle me fait très peur. Et la cinquième étape, c'est assurer son impunité. Donc voilà, elle va minimiser ce qui s'est passé, elle va dire que tout le monde fait pareil avec ses enfants, elle me fait passer pour folle quand elle m'entend parler de violence, elle minimise ses actes, voilà, elle me dit que c'est dans ma tête, voilà. Donc je vous ai dit les 5 étapes, isoler la victime, dévaloriser la victime, inverser la culpabilité, terroriser la victime et assurer son impunité. Donc sur les 5 étapes, il y en a 4 que ma mère fait tous les jours en fait. Mais ce n'est pas tout. Ma mère utilise également une autre arme contre moi, à savoir le contrôle coercitif. Derrière cette expression un peu difficile à comprendre, il y a tout simplement le fait que tant que je respecte ses règles et que je lui obéis, j'évite certaines violences de la part de ma mère. Et dans tous les schémas de violence intrafamiliale, on retrouve souvent ça, c'est-à-dire que la personne victime va employer tout un tas de stratégies pour garder l'agresseur calme, pour ne pas énerver l'agresseur, pour ne pas provoquer ses violences, pour que vraiment il y ait le minimum de raisons de lui en vouloir, enfin que l'agresseur l'agresse. Donc si ma mère me donne un ordre, parce qu'elle fait ça toute la journée, si je le fais immédiatement, elle va rester relativement calme. Mais si je transgresse une règle ou si je ne lui obéis plus, ce qui est relativement normal à 28 ans, par exemple si je refuse d'accomplir dans l'instant une tâche domestique qu'elle me demande, ou si je ne réponds pas à un de ses mails où elle me donne encore un ordre que je n'ai pas envie d'effectuer, bah elle va se venger. Donc elle va me menacer, elle va me faire la gueule, elle va me dire qu'elle va me couper les vivres, etc. Donc je vais maintenant citer un exemple de ces violences très concrètes, parce que là j'ai parlé vraiment de façon assez théorique. Donc entre 2021 et 2022, j'ai vécu chez mes parents, puisque étant précaire au RSA, journaliste indépendante, je gagne quasiment pas d'argent, j'en étais venue à un point où je me disais que c'était absurde de payer un loyer alors que je gagnais pas beaucoup d'argent, tandis que mes parents qui sont riches ont une grande maison en banlieue parisienne avec l'électricité, le chauffage, l'eau chaude, internet, la nourriture, enfin vraiment c'est trop bien de vivre là-bas parce que c'est la campagne, donc il y a possibilité d'avoir un jardin, de faire un potager, d'être au calme, et c'est une grande maison et j'ai ma chambre, et de l'autre côté c'est à côté de Paris, donc ça me permet aussi pour le travail, pour voir mes amis, enfin c'était très pratique. Donc en 2021-2022 je suis retournée vivre chez mes parents, d'autant que l'été souvent je fais mon survivor tour, mon tour de France à pied contre les violences sexistes, donc l'été je suis pas là, donc payer un loyer alors que je suis pas là pendant 3 ou 4 mois l'été, ça me paraissait inconcevable. Et donc je suis partie vivre chez mes parents pendant l'hiver. Et au printemps 2022, j'ai voulu faire un ménage de printemps juste dans ma chambre. C'est important parce que j'ai pas voulu faire un ménage dans toute la maison, je me serais pas permise et puis j'ai pas que ça à faire. Mais en gros, ma chambre depuis 2012 qu'on avait emménagé dans cette maison, j'avais jamais vraiment emménagé dans ma chambre puisqu'en 2012, j'avais 17 ans et juste après mon bac, je suis partie étudier à Lille. Donc j'avais vraiment jamais rangé ma chambre comme si j'y vivais. Je venais juste là les week-ends, les vacances, pendant mes études, mais j'avais jamais vraiment occupé cette chambre et décoré et arrangé les meubles comme je le souhaitais. Donc pendant 2 semaines, j'ai tout sorti des placards et j'ai tout trié. Donc j'ai jeté énormément de choses parce que moi je suis pas une personne qui garde des choses, je suis plutôt dans le truc minimaliste. Donc j'ai jeté plein de choses de mon enfance, de mes cours, de mes études, des objets, etc. Puis après, il y avait toute une partie des choses que j'ai triées pour donner à Emmaüs, donc des vêtements par exemple, des livres. Et donc voilà. Et en fait, ma mère n'a pas supporté parce que ça vient aussi du fait qu'elle veut tout contrôler. Et donc là, elle contrôlait plus et elle, c'est vraiment l'inverse de moi, elle garde tout. Dans son bureau, il y a des dossiers jusqu'au plafond, donc elle ne jette jamais rien. Donc là, voir que moi, sa fille, je jetais quasiment 80% de ce qu'il y avait dans ma chambre, ça l'a rendue, je vais pas dire folle, mais ça l'a mise très en colère. Et encore, ma mère, elle était au travail la journée, donc c'était juste quand elle était là et qu'elle me surprenait, par exemple, à vouloir jeter un truc dans la poubelle ou à aller chez Emmaüs, elle pétait des câbles. Et je me rappelle, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai aussi rangé ma salle de bain et j'avais rempli la poubelle recyclage, je sais pas comment ça s'appelle, la poubelle jaune, je l'avais remplie jusqu'au rabord de trucs en me disant les poubelles vont venir demain ou après-demain chercher la poubelle, sauf qu'en fait on pouvait plus la déplacer tellement elle était lourde, tellement j'avais mis de trucs dedans. Et ma mère, quand elle est arrivée du travail et qu'elle a vu que j'avais jeté plein de trucs de la salle de bain, genre par exemple des cotons-tiges ou des protèges slip qui avaient genre 10 ans d'âge et dont personne se servait, elle a pété un câble. Bon, c'est vrai que j'aurais pas dû jeter des cotons-tiges ou des protèges slip, en fait, j'aurais pu les donner à Emmaüs, Mais du coup, voilà, j'avais jeté plein de déchets, dont ces trucs-là qui étaient encore utilisables. Et ma mère, elle s'est mise à me hurler dessus, à m'insulter. Et enfin, vraiment, elle me regardait avec de la haine. Et du coup, après, j'ai dû faire tout un stratagème pour aller jeter moi-même mes déchets dans le village, aux bennes à ordures. Et puis, quand je suis allée chez Emmaüs, j'ai dû demander à mon père, j'ai demandé à mon père de retenir ma mère parce qu'elle voulait ouvrir tous mes cartons. Et enfin, voilà, elle avait l'habitude. En fait, on avait l'impression qu'on lui prenait toutes ses possessions, en fait, alors que c'était des objets qui m'appartenaient, en fait, hein, c'était à moi. Et j'avais l'impression que je lui dérobais toutes ses possessions et qu'elle allait finir dans la rue, quoi, qu'elle avait plus rien si je partais avec mes habits et mes vieux vêtements chez Emmaüs. Et donc pendant ces deux semaines-là, elle m'a fait vraiment payer et c'est là où elle m'a insultée de salope ou de connasse, je sais plus, elle me hurlait dessus dès qu'elle me voyait, elle me disait que j'étais folle, que c'était n'importe quoi ce que je faisais. Et c'est vrai que de l'extérieur, quand on me voit trier des trucs, ça peut être un peu impressionnant parce que j'avais vraiment beaucoup, beaucoup de choses à trier comme la plupart des gens. Et bah, en fait, quand on s'y met, je sais pas si vous avez déjà fait un ménage de printemps, mais ça peut... j'étais étonnée du nombre de choses que j'ai vidées de ma chambre. Et donc là, ça fait un an que mon ménage est terminé et j'ai jamais regretté une seule des choses que j'ai jetées ou données, en fait. Je ne les regrette pas. Et ma chambre, maintenant, j'ai changé tous les meubles de place, j'ai changé toute la déco. Enfin, c'est la chambre de chez mes parents, quoi. Je m'y sens vraiment bien. Et il y a jamais eu de problème avec mon père, mon frère ou ma sœur. C'est juste ma mère qui a pété un câble alors que ces objets ne lui appartenaient pas. Et donc, ça a été très traumatisant pour moi parce que j'étais juste en train de faire mon ménage dans ma chambre et je devais me cacher. Je devais faire plein de stratagèmes. Et pendant un ou deux mois après ça, dès qu'elle me voyait, elle me hurlait dessus, elle me parlait plus des fois, elle me faisait la gueule. Enfin, il y avait une ambiance extrêmement tendue à la maison, même après que j'ai fini mon ménage de printemps qui n'a duré que 2 semaines et qui, au final, n'a rien changé à la vie de ma mère. Enfin, je veux dire, comme si c'était des objets qui m'appartenaient. Ok, elle a récupéré les protège-slips et les cotons-tiges, mais concrètement, elle va jamais les utiliser. Donc, enfin, bref. Et donc ça a été très très difficile et l'année entière que j'ai vécu chez mes parents, ça a été horrible. Et c'est pour ça que je suis partie à Cherbourg et que je préfère aujourd'hui payer un loyer. J'en ai rien à foutre, mais au moins je suis en sécurité et certes je perds de l'argent, je dois fonctionner dans mes économies pour vivre, mais j'y arrive donc je préfère être en sécurité et seule qu'avec des parents qui m'engueulent, qui me critiquent, qui me dévalorisent, qui m'insultent et qui remettent en question tous mes choix, en fait. Donc, tout ça pour dire que ma mère, ce qu'elle fait avec moi, c'est du dressage et de l'infantilisation. Elle ne me traite pas comme une personne majeure de 28 ans ou juste comme une personne humaine. Elle me traite comme son enfant. Et le problème, c'est que notre société, elle encourage les parents à faire cela avec leurs enfants. Ma mère, elle trouve ça normal de me hurler dessus et de me juger parce qu'elle a été éduquée de cette façon, comme la plupart des gens. Les parents pensent que les enfants leur appartiennent et que les enfants leur doivent obéissance. Les parents se sentent légitimes à critiquer, humilier, crier, insulter, voire frapper l'enfant si l'enfant n'a pas respecté ses consignes à la lettre. Voilà, ce sont des violences habituelles, on peut appeler ça aussi des violences éducatives ordinaires, des VEO. Et il y a plusieurs collectifs et associations en France, notamment stopveo.org, qui luttent actuellement pour faire changer ces mentalités et ces pratiques, mais c'est extrêmement lent. De toute façon, l'oppression des enfants, c'est un angle mort dans la plupart des luttes, puisque c'est pas autant investi que le féminisme aujourd'hui. La lutte contre les violences faites aux enfants, ça s'appelle l'adultisme, en fait, cette oppression organisée des enfants. L'adultisme, c'est une violence fondée sur l'âge. On peut appeler aussi cela l'âgisme. Et en tant que féministe, je lutte contre l'adultisme, notamment à travers ma page Infanticide en France, peut-être que vous connaissez. En fait, depuis 3 ans, je compte les infanticides, donc les meurtres d'enfants en raison de leur âge, commis par des adultes sur le territoire français, sur le même modèle que les collectifs qui recensent les féminicides, les meurtres de femmes en raison de leur genre. Mon décompte des infanticides, il s'élève à 65 enfants tués par des adultes pour l'année 2022, par exemple. Vous pouvez suivre mon décompte sur Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. À l'heure où j'enregistre cet épisode de Marie sans filtre, le 10 mars 2023, je compte déjà 10 infanticides commis depuis le début de l'année 2023 en France. Ces meurtres sont encore moins médiatisés et politisés que des féminicides, donc je vous invite à suivre la page Infanticide en France, si ça vous intéresse. Maintenant que je vous ai expliqué le problème avec ma mère, je vais vous expliquer le problème avec mon père. Donc pour résumer, ma mère, c'est des violences surtout psychologiques et verbales. Et mon père, c'est des violences davantage physiques et également verbales, mais pas vraiment psychologiques. Mon père, c'est un mec cis, blanc, hétéro, de base. Il a déjà frappé ma mère et mon frère quand il était mineur. Il y a quelques années, ma mère, elle a même déposé une main courante contre mon père à la police parce qu'il lui avait donné un coup de boule. Par ailleurs, mon père conduit très mal et met régulièrement sa vie et celle des autres personnes dans la voiture en danger. Il perd très facilement des points sur son permis. Il a déjà eu de nombreux accidents. Il a déjà défoncé plusieurs voitures et il a failli mourir au volant plus d'une fois. Mais, bien sûr, mon père refuse de laisser les autres conduire quand on est dans la voiture avec lui. Et les rares fois où on l'oblige, où il accepte qu'on conduise à sa place, il passe tout le trajet à critiquer la personne qui conduit et à donner des ordres. Klaxonne, double vers la gauche, dépêche-toi, accélère. Voilà, donc c'est extrêmement désagréable d'avoir un mec qui ne sait pas conduire, qui m'explique comment conduire alors que je n'ai jamais eu d'accident. Merci, au revoir. Et puis les fois où il est au volant, donc il s'énerve extrêmement vite. Si moi, en revanche, je critique sa conduite, il peut quitter la voiture en trombe et disparaître pendant plusieurs dizaines de minutes s'il est vexé, en fait. Donc maintenant, je supporte plus d'être dans un véhicule avec lui parce que ça se passe toujours mal. Et voilà.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Mon père, je vais citer un exemple de mon enfance, voilà, de ces fois où il disparaît, où il est vexé. Une fois, on était petits avec... moi, je suis l'aînée de ma fratrie, j'ai un frère et une sœur. Et on était petits, on était en vacances en Normandie, je pense. Et il y a un labyrinthe de maïs, peut-être que vous connaissez. C'est un endroit où on peut aller en famille et payer une entrée. Il y a un labyrinthe qui est fait de champs de maïs, quoi. Enfin, qui est tracé dans un champ de maïs. Et donc, il y avait ma mère, mon père, mon frère et moi, et ma sœur et moi. Enfin, on était 5. Et à l'accueil du champ de maïs, ma mère s'est engueulée avec mon père. Et mon père, il s'est mis à crier sur ma mère et il a disparu. Genre, il s'est mis à l'insulter, le crier dessus, et il a disparu. Et on avait genre 10 ans. Enfin, voilà, on était genre tout petits. Et il a disparu pendant des heures. Et en fait, je me rappelle, on était dans le champ de maïs. Parce qu'après, du coup, avec ma mère, on est allé dans le labyrinthe de maïs. Et en fait, ça a gâché tout l'après-midi parce qu'on ne savait pas où était mon père. Il était injoignable. Et je sais même pas si ça existait les portables, je pense que oui. Mais il était injoignable, il n'était pas avec nous, il était parti, et dans ces cas-là, on ne sait pas où il va, en fait. et on peut même pas le retrouver. Il faut juste attendre qu'il se calme et qu'il revienne et qu'il nous appelle. Et donc on a passé un moment horrible dans le labyrinthe de maïs où mon frère et ma sœur et moi, on aurait pu juste s'amuser comme des enfants, et non, on était juste en train de faire la gueule et de demander à notre mère où il est papa, il va revenir quand papa, et c'était traumatisant en fait. Je m'en rappelle encore aujourd'hui alors que c'était il y a des dizaines d'années. Voilà, c'est très triste. Voilà. Donc en vieillissant, en plus ça s'arrange pas, mon père il devient vraiment de droite, un peu facho, raciste, misogyne, il supporte pas que je le contredise, il m'insulte facilement si je le fais, il supporte pas mon féminisme, il s'énerve extrêmement vite, il refuse le dialogue, il se remet jamais en question non plus. Et puis à la maison il fait pratiquement aucune tâche domestique. En gros, le mec ramène l'argent et puis voilà quoi, le soir, faut rien lui demander. Enfin, il fait à manger, ça je peux pas dire, mon père, j'ai toujours vu faire à manger, mais voilà, il fait pas... il va pas laver les sols, il va pas laver les chiottes, il va pas faire la lessive, il va pas faire tous les trucs chiants. Par contre, il cuisine bien, mais voilà, c'est tout. Voilà, donc je vous ai expliqué le problème avec ma mère, je vous ai expliqué le problème avec mon père. S'ils écoutent cet épisode, je suis morte. Et maintenant, je vais vous expliquer le problème avec le couple de mes parents, parce qu'en fait, ça ne suffit pas... qui a un problème individuellement avec chaque personne. Vous imaginez bien que si vous mettez un mec violent et une femme violente dans la même pièce, ça peut pas bien se passer. Donc mes parents, ils sont en couple depuis genre 30 ans, même plus. Et leurs violences respectives et leur haine réciproque, puisque bien sûr ils se haïssent, entraînent des violences conjugales quotidiennes. En fait, depuis que je suis née, je les ai toujours vus s'engueuler, s'insulter, voire en de très rares et traumatisantes occasions, se taper dessus. Mes parents ne peuvent pas communiquer sans s'énerver, mes parents ne sont presque jamais d'accord, mes parents se détestent et pourtant refusent de divorcer. On n'en parle pas beaucoup de ces couples qui refusent de divorcer alors que rien ne va dans leur couple, mais il y en a vraiment plein. Mes parents sont absolument incompatibles et en même temps inséparables, et ça c'est vraiment lié, je pense, au problème de l'hétérosexualité de l'hétérosexualité obligatoire dans notre société, où comme ils se sont mis ensemble quand ils avaient 24 ans et que par exemple mon père il avait jamais eu de meuf avant ma mère, concrètement ils se sont construits l'un en rapport avec l'autre. Et donc, comme ça fait plus de 30 ans qu'ils sont ensemble, ils sont incapables d'imaginer leur vie l'un sans l'autre, en fait. Ils ne savent même pas comment ils pourraient vivre seuls. C'est impossible. Et donc, leur relation, elle est absolument toxique et dysfonctionnelle, mais depuis le début. Mais comme ils ont aucune maturité émotionnelle et qu'ils règlent tous leurs conflits par la violence, bah, en fait, ça roule, quoi. Ils s'engueulent, mais eux, en fait, ils voient pas déjà les conséquences que ça a sur les enfants. Et surtout, comme ils ont fonctionné comme ça depuis plus de 30 ans, pour eux, c'est normal, quoi. Et ma mère, elle dit toujours ça. Elle dit, mais tu sais, Marie, tous les couples se disputent. Ceux qui se disputent pas, c'est pas normal. Dans toutes les familles, il y a des engueulades. Pour elle, elle a vraiment naturalisé, en fait, les violences conjugales, le fait qu'ils s'engueulent. Effectivement, c'est pas juste mon père qui tape sur ma mère ou juste ma mère qui critique mon père. C'est vraiment des violences avant tout verbales, hein, parce qu'ils se tapent pas dessus souvent. Ça s'est passé très très rarement, mais c'est tout le temps, tous les jours, des engueulades en fait. Et ça, même si on va m'expliquer que c'est pas de la violence, c'est du conflit. Bah pour moi, c'est de la violence, parce qu'en tant qu'enfant, de voir des parents tous les jours s'insulter, se crier dessus, se critiquer, ne pas être d'accord, ça traumatise en fait. Et c'est impossible de me construire, moi, en tant que personne stable émotionnellement. Enfin, je veux dire, moi, comment je construis à mon tour des relations saines avec les hommes, par exemple, ou des relations de couple saines, alors que j'ai eu comme modèle familial un désastre, quoi. Et ma mère, elle dit souvent que ses parents, c'était pire. Ma grand-mère et mon grand-père, c'était pire. Et donc, c'est toujours ce truc de « oui, mais chez les autres, c'est pire, c'est pareil ». Alors qu'en fait, c'est pas parce que notre société encourage les couples à rester ensemble, même quand ils s'entendent pas, qu'il faut... Enfin voilà, j'ai même pas besoin de vous expliquer, vous comprenez que ça, rien ne va dans son discours. Et donc forcément, voir mes parents s'insulter tous les jours, c'est extrêmement traumatisant pour des enfants. En fait, mes parents, c'est pas qu'ils vont s'insulter de de salopes ou de connards. Ils sont pas comme ça. Mais mon père, il dit tout le temps à ma mère qu'elle est chiante. Il lui dit tout le temps qu'elle l'emmerde. Tu m'emmerdes. Et ma mère, elle va pas insulter mon père, mais elle va le critiquer tout le temps. Donc, voilà, c'est comme avec moi. Elle va lui dire que tout ce qu'il fait, il a tort, qu'il le fait mal, qu'il travaille mal, qu'il fait n'importe comment son travail, qu'il a tort de vouloir acheter la maison de ma grand-mère, qu'il a mal fait telle course ou tels travaux dans la maison, que voilà, il comprend rien quand elle lui explique un truc mathématique dur sur les impôts et elle l'engueule en mode mais pourquoi t'as pas déclaré ça aux impôts, enfin voilà, c'est toujours des trucs techniques où elle l'engueule pour un rien en fait. Et moi, ma sœur, mon frère et moi, on a supporté ce triste spectacle depuis notre naissance. On doit toujours faire en fait les médiatrices entre nos parents pour les calmer, voire pour les séparer, parce que forcément, nous, on n'a pas intérêt à ce qu'ils s'engueulent, donc on va tout le temps faire en sorte, c'est bon, calme-toi. Mais c'est pas ce que des enfants sont censés faire depuis leur plus jeune âge. Et moi, en tant qu'aînée, j'avais aussi ce rôle de... Enfin, je voulais aussi éviter ça à mon frère et ma sœur, sauf que je pouvais pas. Donc, je suis vraiment traumatisée par leurs disputes. Ça m'a toujours rendue très, très triste. Et c'est de loin de ça dont j'ai souffert dans mon enfance. C'était pas que mon père soit violent, que ma mère soit violente. Individuellement, mon problème, puisque c'était... quand j'étais enfant, j'avais l'impression que c'était normal, hein, c'était mes parents. Mais par contre, qu'ils s'engueulent, ça, j'ai toujours su que c'était pas normal. Et ça m'a toujours fait du mal, en fait. Et maintenant, je les encourage à divorcer. Ça a été un long chemin aussi, parce que, en tant qu'enfant, voilà, dans cette société hétéro-patriarcale, j'avais envie que mes parents restent ensemble. Mais maintenant, je les encourage à divorcer. Mais comme elles ne veulent pas divorcer, je peux absolument rien faire. Et voilà, maintenant je vais raconter un épisode de violence conjugale, donc enfin de leur violence ensemble. Donc il y a quelques années, je devais être ado, mon frère et ma sœur étaient un peu plus petits, on était dans la voiture. Donc la voiture, vous avez compris, c'est un théâtre de violence assez récurrent. On était dans la voiture, on était en vacances chez ma grand-mère à Verdun dans la Meuse. Et puis un soir, on était allé chez ma tante ou je sais plus qui. On était allé dîner chez quelqu'un de la famille et puis on revenait en voiture chez ma grand-mère. Donc c'était quand même à peut-être une heure de route et il faisait nuit. Et donc c'est comme d'habitude, c'était mon père qui conduisait parce qu'il veut pas que les autres conduisent. Et donc mon père conduisait et ma mère critiquait sa conduite parce qu'il faisait n'importe quoi. Et donc, en plus, je pense qu'ils étaient un peu bourrés puisqu'on était allés dîner chez des gens. Et donc, à un moment donné, ça dérape, en fait. Mes parents commencent à se battre en conduisant, donc à se donner des petites tapes, vu qu'ils étaient devant et nous, on était derrière. Et donc là, ça dégénère. Donc, je sais plus dans quel ordre ça s'est passé, mais en gros, au bout d'un moment, mon père, il a pété un câble. Ils se sont arrêtés sur le bord de la route. Et là, ils ont commencé à se frapper dans la voiture. Et c'était horrible et avec mon frère et ma sœur on essayait de les calmer mais ça marchait pas. Et puis au bout d'un moment ils sont sortis de la voiture et ils ont fait le tour de la voiture pour échanger leur place puisque mon père a accepté que ma mère conduise. Et moi j'avais peur qu'ils se mettent des pains dans la gueule dehors quoi. Et donc ils sont re-rentrés dans la voiture et là il y avait un niveau de tension tel que je suis sortie de la voiture, j'en pouvais plus et je suis partie quoi, enfin j'ai fait 10 mètres, hein. je me suis posée à 10 mètres de là, c'était l'hiver et tout, enfin je sais pas si c'était l'hiver mais c'était la nuit quoi, et je voulais plus bouger, je voulais plus rentrer dans la voiture et c'était ma technique pour faire redescendre la pression, c'est que je voulais attirer l'attention pour que ce soit plus eux, leur conflit qui soit au centre de l'attention. Donc ça a marché, quand ils se sont calmés, ils ont vu que j'étais plus dans la voiture et qu'ils pouvaient pas partir sans moi, donc là ils ont fait des pieds et des mains pour que je rentre dans la voiture en disant « Mais Marie, c'est fini, c'est terminé, etc. » Alors qu'ils venaient de s'insulter et de se frapper devant nous, enfin c'était peut-être la première fois, donc c'était horrible. Et donc au bout d'un moment, je suis rentrée dans la voiture et on est rentré chez ma grand-mère. On n'a rien raconté de ce qui venait de se passer à ma grand-mère. Tout le monde a fait comme si de rien n'était. Et moi, en fait, ça m'a traumatisée. Parce qu'en fait, le fait qu'avant ça, c'était juste des violences verbales et psychologiques, c'était horrible, mais je m'étais habituée. Mais là, je les ai vus se frapper et je me suis dit, mais c'est horrible, quoi. Vraiment horrible. Voilà. Donc je vous ai fait maintenant le menu de ce qui allait pas chez ma mère, chez mon père et chez mes deux parents ensemble. Maintenant, arrivons-en à la solution de leur violence, pour échapper à leur violence. Hein. Le titre de l'épisode, j'arrête de parler à ma mère. C'est un peu provocateur, hein. Je pourrais aussi dire j'arrête de parler à mon père, mais c'est plutôt... Mon père, quand je lui parle, ça va, en fait. Hein. Enfin, je veux dire, si je suis pas d'accord avec lui, il va s'énerver, mais voilà, quand on s'appelle au téléphone, en général, il est pas de base agressif, contrairement à ma mère. Donc c'est plutôt ma mère qui me harcèle en permanence et à qui j'arrête de parler. Mais bref, la solution pour échapper à leur violence, ce serait donc de couper les ponts, de ne plus leur parler, de les bloquer sur les réseaux sociaux, de ne pas revenir dans leur maison, d'éviter les fêtes de famille, de ne plus accepter leur argent ou leurs cadeaux, car mes parents sont blindés de thunes. Et en fait, tout ça, j'ai déjà essayé plusieurs fois. Hein. J'ai bloqué mes parents sur Facebook et Instagram, donc maintenant, ils peuvent plus du tout voir, depuis plusieurs années, ni lire, ni voir mes publications et mes stories. Ma mère ne peut plus me harceler de messages sur Messenger. Mais voilà, ils peuvent toujours m'envoyer des messages sur WhatsApp. À plusieurs reprises, j'ai néanmoins coupé totalement les ponts avec ma mère dans l'histoire récente, depuis que j'ai 18 ans, on va dire, je fais ça régulièrement. Il y a des moments où je lui parlais plus du tout, ni par SMS, ni par téléphone. Par exemple, j'ai cessé d'interagir avec elle quand je suis partie faire le tour du globe en cargo en 2019. C'est un voyage de 4 mois qui a inspiré mon livre La Puissance qui est sorti récemment. Pendant ce périple en mer, j'ai pas parlé à ma mère, j'ai parlé qu'à mon père, à mon frère, à ma sœur. J'avais bloqué le numéro de ma mère sur mon téléphone portable, donc elle pouvait même pas m'appeler. C'était extrêmement reposant. Voilà, donc ça a duré 4 mois, mais quand je suis rentrée en France, elle m'a fait du chantage pour que je la débloque et j'ai fini par céder. J'ai recommencé à lui parler. De temps en temps, je la rebloque quand elle dépasse les bornes et elle me harcèle de messages négatifs, par exemple. Mais cela ne dure que quelques semaines ou mois à chaque fois, parce que le problème, c'est que je suis encore trop attachée à mes parents, ne serait-ce que financièrement. En fait, je gagne pas ma vie, je vous l'ai déjà dit, en publiant des épisodes de podcast gratuitement, en écrivant des enquêtes payées 3 francs 6 sous pour des magazines, ni en auto-éditant mon livre La Puissance, vendu pour l'instant à 86 exemplaires. Moi, je vis pas de ça, hein, je touche le RSA, donc entre 200 et 400 euros par mois, ça dépend. Et puis quelques centaines d'euros en plus pour mon travail, avec ma cagnotte Tipeee, mes piges, l'auto-édition du livre, les droits d'autrice chaque mois. Mais je peux pas me permettre de louer un appartement et d'habiter à Cherbourg, loin de mes parents, donc avec qui j'ai cohabité en 2021-2022. Je peux pas me permettre d'habiter ici si mes parents ne me donnent pas plusieurs centaines d'euros en plus de ce que j'ai déjà chaque mois, en billets ou par virement. Mes parents, voilà, mon père, quand je rentre à la maison, il me donne un peu d'argent en billets. Ma mère, elle me fait des virements de temps en temps. Si demain, mes parents me coupent les vivres, en fait, j'arrête d'être aventurière, journaliste et autrice féministe, hein, tout simplement. Ça fait 4 ans que je fais ça. Je pensais que ça allait décoller, qu'à un moment donné, j'allais devenir connue et que j'allais vendre mon livre à des milliers d'exemplaires, que mes podcasts allaient faire des centaines de milliers d'écoutes, voire des millions. Je pensais que mon compte Instagram allait dépasser les 10 000 abonnés. Je pensais que mes aventures allaient vraiment attirer plein de gens. Et en fait, pas du tout. Ça fait 4 ans et oui, ça décolle. C'est-à-dire que ça intéresse de plus en plus de gens ce que je fais. Mais on est combien en fait à faire des trucs de ouf sur les réseaux sociaux et à être relativement anonyme, il n'y a pas de place au soleil pour tout le monde. Les féministes connues, vous savez à qui je pense, bah il y en a pas beaucoup en fait, hein. Il y en a quelques-uns, mais c'est pas la majorité. Donc mes parents, voilà, c'est, vous le savez, maintenant c'est grâce à eux que je fais ça depuis 4 ans. Et si demain Yael me coupe les vivres, bah en fait je vais pas vivre du RSA et de ma cagnotte Tipeee. Donc concrètement, je vais trouver un emploi normal, que je vais faire comme tout le monde. Et puis voilà, j'aurai plus le choix. Voilà, donc je pense que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je ne coupe pas totalement les ponts avec mes parents. Ces personnes qui sont toxiques et violentes me permettent néanmoins de vivre ma meilleure vie actuelle, donc de faire ce que je veux de mon travail et de mes journées. Et bien sûr, j'aurais pu publier cet épisode bien avant et en parler bien avant sur les réseaux sociaux si j'étais pas en contact permanent avec mes parents, parce que si, bien que mes parents ne vont pas voir la publication de cet épisode étant donné que je les ai bloqués sur les réseaux sociaux, ils peuvent quand même aller sur mon blog et tomber sur cet épisode et puis l'écouter ou le lire et me démonter quoi la semaine prochaine quand je vais les voir. Donc je sais que que s'ils écoutent cet épisode, je suis morte. Enfin, c'est une expression, ils vont pas me tuer, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est hyper compliqué parce que quand on est victime de violence, tout le monde dit que la première chose qu'il faut faire, c'est partir. Et quand on est en couple avec un mec hétéro, ça peut sembler extrêmement difficile de partir, mais c'est néanmoins possible. Mais en fait, quand c'est ta propre famille qui est violente et que ça fait 28 ans que je suis avec cette famille-là, que je me sens coupable, enfin redevable, et que j'aime ces personnes, en fait, pour moi, c'est pas possible. Et l'autre jour, j'ai rencontré un mec qui me dit qu'il a coupé totalement les ponts avec ses parents et que ça fait des années qu'il leur a pas parlé. Et je peux pas m'empêcher de trouver ça triste, quoi. Parce que du coup, ses parents, ils savent même pas ce qu'il devient, lui. C'est même pas ce que deviennent ses parents. Et moi, je suis encore attachée à ma famille, à la maison familiale. J'y retrouve presque un week-end sur deux mon frère, ma sœur et la chatte de la famille qui s'appelle Mew. Moi, je veux pas renoncer à ces réunions familiales pour le moment, parce que même s'il y a plein de moments où mes parents s'engueulent et où c'est horrible, mais il y a aussi plein de moments où on se marre avec mon frère et ma sœur, où on regarde des films, où on profite du jardin. Il y a même une piscine. Enfin, voilà, c'est des... Je peux même pas compter tout ce que mes parents m'ont donné, parce que dès que je viens à la maison, ils me font à manger à tous les repas, ils me prêtent leur voiture. Enfin, mes parents, c'est des personnes qui m'ont tout donné financièrement parlant. Donc, je suis encore habituée en fait à ce niveau de vie bourgeois. Et si demain je coupe les ponts avec mes parents, bah en fait, je serai officiellement précaire, quoi, tout simplement. Donc voilà, je close cet épisode avec ces solutions qui seraient arrêter de parler à mes parents, et je l'ai déjà fait, mais il faudrait arrêter définitivement de leur parler, et on verra si un jour j'en arrive à là. Mais je vous invite fortement à faire ça si vous le pouvez, si vous avez des parents violents, mais voilà, je voulais faire cet épisode pour déculpabiliser tout le monde, sauf les parents violents, et puis dire que bon, de toute façon, quoi qu'on fasse, on s'adapte, on fait comme on peut. Et on a les solutions qu'on a. Et moi, déjà, juste ne plus habiter avec mes parents, alors que l'année dernière, j'ai vécu avec eux pendant un an, 12 mois. Juste ne plus habiter avec eux, c'est déjà énorme pour moi, parce que voilà, s'ils me font chier sur WhatsApp, bah, je regarde pas les messages. Si j'ai pas envie de les voir, bah, je vais pas les voir. Enfin, voilà, c'est pas... Voilà, je suis pas rattachée directement à mes parents, donc c'est déjà un premier pas. Voilà, peut-être qu'un jour j'arriverai à aller plus loin, peut-être que cet épisode ça va faire une crise monumentale dans la famille. Voilà, je sais que mon frère et ma sœur, vous vous posez peut-être la question de comment eux ils ont vécu l'enfance et comment ils vivent leur relation actuelle avec mes parents. Faudrait leur poser la question, je vais pas parler à leur place. On a tous des interprétations différentes de ce qui s'est passé, on a tous souffert, mais peut-être à divers degrés. Et je pense que mon frère et ma sœur, c'est pas du tout dans leur priorité de couper les ponts avec mes parents. Ils sont même plutôt contents quand ils les voient. Enfin, voilà. Donc, voilà. Chacune fait ce qu'il veut, ce qu'elle peut, etc. Et je sais que je suis pas seule à souffrir de ces contradictions. Merci beaucoup pour votre écoute. Comme d'habitude, je vous invite à écouter mon second podcast, Sologamy, qui est vraiment complémentaire de Marie sans filtre, puisque j'invite des personnes autre que moi, à décortiquer les enjeux du célibat, de la vie solo, de l'injonction au couple et à l'hétérosexualité, une fois par mois. Pour ce qui est de Marie sans fil, je reviens le mois prochain avec un nouvel épisode intime et politique. En attendant, vous pouvez m'écrire pour me faire un retour sur cet épisode au sujet des violences intrafamiliales. Mon pseudo, c'est MarieAlbertFR sur les réseaux sociaux. Si vous avez aimé ce 50e épisode, je vous invite aussi à lui mettre 5 étoiles et à le commenter sur votre plateforme d'écoute. Ce mois-ci, je tiens à remercier les personnes qui soutiennent financièrement mon travail via ma cagnotte Tipeee. Merci à Aristide, Kevin, Mathieu, Blandine, Elsa, Roxane, Clémence, Héloïse, Charlène et Tara pour leurs dons réguliers. Chers auditeurs, je vous invite vivement à soutenir ou rémunérer une partie de mon travail en participant à cette cagnotte dont j'ai mis le lien dans la description de l'épisode pour me faire un don ponctuel ou récurrent. Cela m'aidera vraiment et je vous le rappellerai jusqu'à ce que j'en ai vendu 100 exemplaires. On en est toujours à 86. J'ai sorti mon premier livre, La Puissance, récit féministe de mon tour du globe en cargo. Vous voulez lire mes aventures de célibataire sur un bateau peuplé d'hommes marins? Eh bien, je vous recommande d'acheter ce roman. Il est court et accessible. Je l'ai déjà dit, vous pouvez le commander chez votre libraire ou sur Internet. La Puissance vous attend. Merci et à très bientôt.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.